Bonsoir. Ce soir, la longue distance va nous amener très loin. Elle va nous amener tellement loin qu'on va revenir chez nous en France. Michel Sardou est l'invité de la journée d'Europe 1 et ce soir avec lui, nous allons parler de ce que vous aimez, de ce que vous connaissez, de ce que vous ne connaissez peut-être pas assez, l'histoire de France. Et nous allons retrouver aussi son ami André Castelot, un prince étranger Michel de Grèce, un historien passionnant Jacques Delaunay et un autre chanteur qui est aussi son ami et qui aime beaucoup l'histoire, William Scheller, de nationalité américaine, n'a pas oublié Lafayette. Castelot, vous connaissez Michel Sardou?
Je le connais et je l'admire infiniment. Je l'admire infiniment d'abord parce que c'est un homme loyal, un homme droit, un homme qui trace son sillon absolument dans l'histoire de la chanson. Oui, je l'admire infiniment. D'abord, j'adore l'écouter. Et puis, j'aime également bavarder avec lui. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à plusieurs reprises et j'ai toujours été très conquis par Sardou. Et puis, alors, il y a des chansons de lui qui me transportent. Par exemple, sa chanson En avant, toutes ces chansons qui, vous savez qu'il adore Napoléon. Par conséquent, nous avons là un point tous les deux commun, mais je te fais un rectificatif. C'est Bonaparte qu'il faut aimer, ce n'est pas Napoléon, c'est pas Gagnon. Mais je crois que Sardou pense comme moi. Nous avons eu l'occasion de travailler ensemble pendant un certain temps sur un journal de radio, et Sardou était le rédacteur en chef, et il m'interrogeait, il m'interviewait. Et nous avons parlé de Napoléon longuement, et je me suis aperçu que dans le fond, je pensais comme lui. Et c'est peut-être cela qui nous a rapprochés. Cela dit, j'ai une profonde admiration pour son talent, son très grand talent. C'est certainement pour moi le plus grand chanteur que nous ayons actuellement dans le genre de la chanson.
André Castelot, nous allons voir tout à l'heure comment l'histoire est modifiée par des riens. Est-ce que l'histoire a été changée par la chanson?
Je crois qu'un homme comme Béranger, qui a été un éternel opposant, a joué un très grand rôle dans la marche des événements. Prenons par exemple un des sujets de mon dernier livre, c'est le sacre de Charles X. Eh bien, ce sacre a été un petit peu ridicule, mais enfin, les gens ne le savaient pas. Mais à ce moment-là, on a écrit une chanson. Béranger a écrit une chanson qui s'est appelée « Le sacre de Charles le Simple », pour laquelle il a été arrêté d'ailleurs. Il y a eu tous les ennuis du monde avec cette chanson. Mais cette chanson a marqué davantage dans l'esprit des contemporains que le sacre lui-même de Charles X, qui n'a paru qu'une manière de réconciliation à la gothique parfaitement démodée. Donc là, Béranger a joué son rôle. Il a joué son rôle, et quand 6 ans plus tard, Charles X s'est effondré, il est certain que bien des gens pensaient encore à la chanson de Béranger. Mais Béranger a été un éternel opposant, il a fait du tort également à Napoléon, du vivant de Napoléon. Par contre, après la mort de Napoléon, il a toutes les chansons, Parlez-nous de Louis Grand-Mère, ces chansons que nous connaissons tous et qui ont eu une grande influence pour la légende napoléonienne.
On n'imagine pas aujourd'hui à quel point ces chansons étaient diffusées. On peut même dire qu'elles étaient aussi écoutées, aussi répétées que ne le sont les tubes d'aujourd'hui.
Parce qu'il y avait les colporteurs qui sillonnaient la France et qui vendaient des chansons. Et moi, je me souviens encore, quand dans mon enfance, il y avait, par exemple, tout le long du boulevard entre le Clichy et la Place Blanche et Place Pigalle, des chanteurs qui braillaient une chanson. Je dis braillaient parce que c'était pas toujours très joli. Et tandis que la femme vendait autour du chanteur la partition, le texte, et tout le monde chantait en chœur. Et bien ça, c'est quelque chose-là dont j'ai vu que la fin de ce cycle a commencé bien avant notre époque. Et pendant des années, des siècles même, les gens chantaient dans la rue des chansons que vendaient des colporteurs. Et puis à travers la France, les colporteurs vendaient des chansons. Et grâce à cela, d'ailleurs, des villes, des petites villes, des villages connaissaient les textes, les chansons, parce qu'elles étaient rarement publiées dans les journaux. C'était toujours le colporteur et le chanteur ambulant. Et l'ordre de barbarie également, il y avait les mendiants et les malheureux qui faisaient marcher leur ordre de barbarie, toujours avec des chansons populaires. La chanson a donc joué un rôle considérable dans notre histoire.
J'ai lu quelque part qu'il y avait quelques airs connus, et que sur ces airs connus, suivant l'actualité, on faisait des nouvelles paroles.
Oui, c'est exact. Et malheureusement, je n'ai pas la mémoire musicale que...
Mais notamment sur ce qui se passait à Versailles, sur les dernières liaisons amoureuses, les derniers potins.
Ah ben le fameux Ça ira, par exemple, qui est la chanson la plus populaire de la Révolution, c'est Franklin. Franklin qui était venu à Versailles quelque temps auparavant et qui avait une habitude, quand on commence à voir, ça ira, faisait-il. Et alors on avait fait une chanson à cette époque-là, qui était une chanson tout à fait correcte pour Franklin et pour la monarchie. Et alors on a transformé, on a pris le ça ira, et on a fait cette chanson que vous connaissez, qui est extrêmement violente contre le roi, contre la reine et contre la monarchie. Mais on s'est servi, en somme, comme vous le disiez, d'un point de départ tout à fait normal et sans être violent, le mois du monde, sans être de la polémique. Alors après, c'est devenu de la polémique violente.
Nous retrouvons Michel Sardou et André Castello tout à l'heure.
Je ne crois pas, non.
Pourquoi ?
Parce que je suis contre toutes les tyrannies, contre tous les pouvoirs despotiques. Je trouve qu'un gouvernement, quel qu'il soit, ne peut pas reposer entre les mains d'un seul homme ou d'une seule faction d'hommes. Je crois que toute l'histoire de France l'a démontré, enfin l'histoire du monde l'a démontré. Ou alors uniquement par la crainte. Alors on pourrait imposer un règne comme ça par la crainte, si le peuple avait peur. Mais ça se retournerait finalement. Je suis un démocrate, un républicain.
Pour vous, la royauté, c'est automatiquement la tyrannie ?
Mais la tyrannie, c'est pas forcément violent. Quand je dis la tyrannie, c'est plutôt le despotisme. Forcément, ça dépend du caractère d'un homme. Alors si l'homme est intelligent et bon, on a eu de très bons rois, on a eu de très bons gestionnaires, évidemment on a eu de très mauvais aussi. Et comme il était droit divin et héréditaire, on pouvait rien faire, on pouvait pas les déloger, il fallait les assassiner. Quelquefois on s'est trompé de roi, on a assassiné les bons, on a laissé les mauvais.
Comment est-ce que vous avez rencontré André Castello, qui tente tellement de bien de vous ?
Et là, c'était à l'occasion justement, comme il le rappelait, on préparait un journal pour la radio et un journal historique, on parlait des faits historiques et tous les deux nous sommes des passionnés de Bonaparte et on s'est rendu compte qu'on décrochait à Napoléon justement parce qu'il devenait roi, tous les deux ensemble.
Bonaparte a commencé avec la Révolution française. Connaître notre passion sur la longue distance. Notre passion, c'est de faire rencontrer des gens qui peut-être autrement ne se seraient pas rencontrés. Et ce soir, pour couronner la journée de Michel Sardou sur Europe 1, nous avons invité son ami André Castello, le prince Michel de Grèce qu'il ne connaît pas, l'écrivain et l'historien Jacques Delaunay, que peut-être qu'il ignorait, William Scheller qui est son ami. Ces cinq personnes sont passionnées par l'histoire de France. Michel Sardou, est-ce que vous connaissez l'auteur de la Marseillaise, le compositeur ?
Oui, on l'attribue à Roger de Lisle.
Oui.
Si on l'attribue parce qu'il y a plusieurs défenseurs. Il y a des gens qui disent que c'est pas lui qui l'a fait. Il y a des gens qui prétendent que c'est aussi Danton qui l'a chanté ou qui l'a clamé la première fois à la Convention. Et il y a aussi une version qui veut que ce soit les engagés volontaires à la Révolution qui venaient de Marseille qui chantait cette chanson et qu'on aurait appelé la Marseillaise. Alors, moi, je l'attribue à Rouget de Lille parce que c'est normal, c'est comme ça. Mais enfin, disons, il y a des gens qui la contestent. Comme tout à l'heure, vous avez présenté William comme étant américain. C'est faux, il est français. C'est très important. Ah. William Scheller n'est pas américain.
De choix. Vous avez la nationalité américaine aussi?
J'avais la nationalité américaine étant petit, j'ai choisi la nationalité française à ma majorité parce que j'ai toujours aimé l'Europe, que j'ai toujours aimé la France et je me sens beaucoup plus français qu'américain de culture.
Vous n'avez pas fait de service militaire?
En France, si.
Ah bon? Oui. Dans quel régiment?
Dans les hussards. Ah, ça devait aller plus. Très bien.
Alors vous avez certainement tous entendu la Marseillaise, mais peut-être pas celle que je vais vous offrir spécialement ce soir, car elle a été faite, réalisée, composée, arrangée au synthétiseur. Et après, vous allez encore apprendre des secrets sur Rouget de Lille. Pour moi, il est certain que lorsque j'écoute une Marseillaise enregistrée de cette manière-là, ou même autrement, puisqu'il y a plusieurs enregistrements actuellement de la Marseillaise qui sont d'actualité, que ce soit celle de Giscard d'Estaing ou celle de Jacques Chirac, qui sont toutes les deux différentes, eh bien, je ne puis pas m'empêcher de penser à ce petit capitaine nommé Rouget de Lille, qui est un médiocre personnage, qui n'a pas fait grand-chose avant d'être touché par l'aile de l'ange, si j'ose dire, puisqu'une nuit, tout d'un coup, il a écrit la Marseillaise. Eh bien, je crois que le phénomène est le suivant, il était se promener dans les rues. La déclaration de guerre venait d'être prononcée, étant proclamée à Strasbourg, il y a eu des affiches. Des affiches dans lesquelles il y a eu des mots « Allons, enfants de la patrie, engagez-vous, partez, l'ennemi est là, les sillons vont être rougir du sang ». Et tous ces mots sont mis à chanter dans sa mémoire. Et lorsque quelques heures plus tard, Littrich lui a dit « Vous, monsieur de Lille, qui savez tellement bien trousser un poème, écrire de la musique, pourquoi n'écririez-vous pas un hymne pour l'armée du Rhin ?» C'est à ce moment-là qu'Auger de Lille est rentré chez lui, a essayé, et il l'a dit lui-même, les paroles me venaient avec l'air, l'air me venait avec les paroles, et le matin, quand il a terminé sa Marseillaise, il s'est rendu compte qu'il avait fait un chef-d'œuvre. Et ce qu'il avait fait était une marche militaire, et non pas une marche grave, car quelques jours plus tard, le dimanche suivant exactement, le bataillon de Rhône et Rhin est rentré à Strasbourg, et pour l'accueillir, on a joué pour la première fois avec une musique militaire, la Marseillaise. Et il y a tout d'un coup un homme qui marchait, qui écoutait ça, disant, qu'est-ce que c'est que cet air-là? On dirait qu'il a des moustaches. Par conséquent, c'est bien un air guerrier. Quant au pauvre Rouget de Lille, lui n'a rien compris du tout. Et devenu très royaliste, il a décidé d'émigrer. Et il est parti à travers les monts du Jura pour franchir la frontière. Et il était accompagné d'un petit guide qui était avec lui, un gosse de 12 ou 13 ans, qui d'un coup s'est mis à siffler la Marseillaise. Rouget de Lille dit, mais qu'est-ce que tu chantes là? Bah quoi, tu connais pas ça? C'est la Marseillaise, pardi. La Marseillaise, comment? Bah voyons, tout le monde la chante. Les Marseillais, en montant vers Paris, l'ont chanté. J'étais là, j'ai entendu. Eh bien, chante-moi la Marseillaise. Et Rouget de Lille a appris comme cela, de quelle manière son hymne, écrit à Strasbourg, était parti, on ne sait comment, jusqu'à Marseille, avait été choisi comme marche par les Marseillais montant vers Paris, avant le 10 août, par conséquent. Et après que le gosse ait chanté la Marseillaise, Rouget de Lille a dit, je ne pars plus, il a fait demi-tour. Et il est rentré à ce moment-là à Strasbourg, il a embrassé la cause de la Révolution. En somme, il a été le premier conquis par son hymne et par sa musique. C'est assez étrange. Cela dit, comme l'a dit un jour Napoléon, la Marseillaise sur un champ de bataille, ça vaut 100 000 hommes. Mais Rouget de Lille sur un champ de bataille, ça ne valait même pas un homme. C'est pour ça qu'il s'est retiré. Et il n'a jamais compris l'importance et la valeur de son hymne. Plus tard, il parlera de la Marseillaise en disant « Ah, ma bleuette », dira-t-il. Et de même, un peu plus tard, lorsqu'il est sous la Restauration, où la Marseillaise était évidemment un hymne interdit, il rentrait chez lui parfois en disant « Ah, ça va mal, on chante la Marseillaise ». Et sous le règne de Louis-Philippe, on s'est d'un coup aperçu que Rouget de Lisle n'était pas encore officier de la Légion d'honneur. Alors on lui a envoyé la rosette, et à ce moment-là, Rouget de Lisle dit « C'est très gentil à vous, je ne suis même pas chevalier ». Et Rouget de Lisle est donc le seul homme qui a rétrogradé dans la Légion d'honneur. Il a été nommé chevalier alors qu'il avait été par décret signé officier. Alors, il a un destin extraordinaire. Quand il est mort, a choisi le roi, à ce moment-là, la Marseillaise était de nouveau proscrite, et on n'a pas pu jouer la Marseillaise lorsqu'il a été enterré. Et pourtant, les fossoyeurs, en descendant le corps, ont chanté la Marseillaise. On peut dire que Rouget de Lisle a vraiment été enterré dans les plis de son drapeau, les plis de la Marseillaise.
Pourquoi Michel Sardou cette attirance pour l'Empire français?
Non, je n'ai pas une attirance pour l'Empire français. Je suis comme André Castello, j'ai aimé l'épopée bonapartiste. C'est une chose, à partir du moment où il est devenu empereur, j'ai un peu moins accroché. C'est-à-dire que je n'aurais pas fait partie des 100 jours, je n'aurais pas rallié aux 100 jours, par exemple. Certainement. Je trouve qu'à partir du moment où il est devenu empereur, il a changé, d'abord physiquement, énormément. Moralement aussi, il a placé ses frères, ses sœurs, ses familles. Il s'est servi un peu de l'Europe comme on se sert d'un appartement. Il distribuait les états comme des chambres. Il a mis Bernadotte en Suède. Et quand Bernadotte a commencé à être un bon roi de Suède, il lui a demandé de se rallier. Alors que Bernadotte savait très bien que s'il ralliait, toute la Suède tombait et que la Suède l'avait adopté. Enfin, il agissait comme un despote. Enfin, il agissait plus comme le Bonaparte, le d'Arcole, plus du tout. Moi, j'aimais l'épopée bonapartiste, surtout. Et à partir du sacre, j'ai moins aimé les costumes, disons.
Est-ce que vous vous rendez compte que toute la jeunesse, à ce moment-là, a pu d'abord s'engager dans l'armée, a pu voyager, et que soudain, il s'est passé une chose tout à fait extraordinaire qui ne se repassera plus tard que pendant la résistance de la dernière guerre, c'est-à-dire que des gens de tous les milieux se sont trouvés réunis. Que des artisans, des ouvriers, des aristocrates, des bourgeois, des petits bourgeois se sont retrouvés réunis dans les armées impériales. Et au fond, ce que aucun régime politique n'avait pu réussir a été réussi.
Dans les armées impériales, je ne crois pas. Hein. Dans les armées de la Révolution, qu'a dirigé Bonaparte, oui. Parce que quand il a pris l'armée d'Italie, il y avait des citoyens qui défendaient la République.
Il n'y avait pas d'aristocrates, il y en aura dans
Il y avait certainement certains aristocrates qui avaient embrassé la cause républicaine, il y en avait certains. Mais quand Bonaparte a commencé, disons, pour être précis, sans l'être, en fait, à commander l'armée d'Italie, quand il est devenu le grand Bonaparte, il y avait d'abord le peuple révolutionnaire de France qui formait les armées. C'est-à-dire qu'il n'était pas payé, il n'était pas armé, il n'était pas nourri, il était dans un état lamentable. Et là, évidemment, les gens étaient de toutes les catégories sociales, de tous les coins du monde, parce qu'ils défendaient les frontières de la République qui étaient attaquées dans tous les coins. Après, quand ça a été les soldats d'Empire, au début, effectivement, il y a eu le même engouement qu'à l'époque de la République, mais après, il y avait quand même des enrôlements de force. Il y avait quand même des services militaires qui duraient la bagatelle de 17 années, obligatoires. Autrement, c'était désertion. C'était plus du tout le même esprit. Il avait, de ces armées de la Révolution aux armées de l'Empire, il y avait eu beaucoup de millions de morts, déjà. C'était plus les mêmes hommes, disons. Il ne faut pas oublier qu'il a fini à Waterloo avec des soldats de 14 ans et de 75 ans.
Et Marie-Louise. On les appelait les Marie-Louise.
Marie-Louise.
À cause de l'impératrice. Mais il y a peut-être une chose qu'il faut se dire, en effet, c'est qu'il y a eu un rôle de l'argent très très important. Par exemple, on sait que Napoléon donnait des pourboires monstrueux à ses maréchaux avant les combats. Et c'était des milliards. Il les couvrait d'argent. C'est vrai que c'est un homme qui a utilisé des méthodes qui n'étaient pas toujours les plus nobles. Mais en même temps, est-ce que c'est la dimension d'un empire français qui vous choque? Qu'est-ce qui vous choque dans l'aventure napoléonienne par rapport à la légende bonapartiste?
L'épopée bonapartiste, ce qu'il y a de formidable, c'est que c'est un sous-lieutenant d'artillerie complètement inconnu qui assiste à la prise des Tuileries en spectateur, qui regarde le massacre que font les Suisses, comme ça, de derrière, qui d'un seul coup sorti de nulle part. Durant des prophéties de Nostradamus, peut-être qu'il avait dit qu'un aigle viendrait d'une certaine île du Sud, c'est tout. Arrive à catalyser la révolution, arrive à dire la révolution c'est moi, et arrive à prendre une nation en plein, en, dirais-je, en plein feu, et à prendre toute cette énergie avec lui et à ramener ça, à discipliner ça et en faire une force extraordinaire. C'est la seule fois où dans l'histoire de France, on prend pas des coups, on en donne. Quand on regarde nos livres d'histoire, c'est la première fois où on marque des buts, finalement.
Avant, est-ce que vous n'êtes jamais posé la question pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de gens dans les asiles qui se prennent pour Napoléon ?
Oh, vous savez, il y a des tas de gens qui se prennent pour César, pour d'autres choses. Ça, c'est...
Mais Napoléon a un abonnement particulier.
Parce que c'est moderne. Avant, on se prenait pour Alexandre, ou on se prenait pour Jules César, ou... je vous dis parce que c'est une épopée, donc c'est quelque chose qui fait un peu rêver. C'est-à-dire qu'il a réalisé, en fait, le vœu de la Révolution. C'est-à-dire qu'un homme sorti du rang pouvait atteindre les plus hauts sommets dans l'État, je crois.
Oui. C'est-à-dire qu'il a réalisé, peut-être surtout... l'idée d'une synthèse, c'est-à-dire qu'il est devenu le roi de la Révolution.
Il est surtout le héros de la Révolution parce qu'il a gagné. Il a su reprendre une armée qui était dans un piteux état, qui était quand même une armée extraordinaire, parce qu'ils jouaient compte tenu des moyens avec lesquels ils se battaient à l'époque, je ne dis pas nourris, pas armés, ou c'était pas des vrais soldats, c'était des citoyens, c'était pas des soldats de métier. Il a réussi à prendre ça, à la former, à en faire une force de frappe, comme on dirait aujourd'hui, extraordinaire. C'est-à-dire, il a surpris, en plus, c'était un génie militaire aussi. Il avait quand même ça pour lui, c'est qu'il savait les disposer, ses troupes, ses fameux canons de Toulon, c'était pas trop mal, quand même.
Alors, vous auriez voulu qu'il s'arrête quand, à quel moment ?
Alors, ça, c'est la destinée. Ça, la destinée a voulu qu'il s'arrête au bon moment, je présume. C'était le moment. D'ailleurs, il a dit une phrase, je crois, « Tant qu'on aura besoin de moi, je cite de mémoire, comme ça, je serai inébranlable, mais le jour où on n'en aura plus besoin, une mouche me fera basculer. » Finalement, une mousse, parce que la dernière campagne, celle qui lui a valu l'emprisonnement et l'exil, c'était sa plus belle. En art militaire, la dernière campagne de France, quand sur le territoire de France, quand il s'est battu aux portes de Paris, je crois que là, il se battait à 15 000 hommes contre, je vais dire une bêtise, je n'ai plus les chiffres en tête, je n'ai pas pris mes notes, mais contre 250 000 à peu près. Et il a réussi à donner des coups à Blücher comme jamais l'autre avait vu de sa vie. Il se battait à 1 contre 50. Il réussissait par une tactique, par un génie militaire qu'il avait, à pousser ses hommes au maximum.
C'était la marche en avant.